Radio-Télévision Suisse. RTBF.
Radio France.
Radio-Canada.
Bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone, une émission sur le fil de l'émotion aujourd'hui, avec un livre d'amour, la voix d'un grand artiste parti trop vite et la poésie d'un créole qui fait briller le monde et la langue. C'est l'une des sorties événements en librairie en ce moment, le nouveau livre de Daniel Pennac, habile et malicieux comme celui à qui il rend hommage avec le récit de ce qui est finalement une histoire d'amour, l'amour pour son frère. Bonjour Daniel Pennac.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Avec ce récit, vous partagez certains souvenirs avec votre frère disparu en 2007. C'était un sacré personnage, un peu à l'écart du monde, on y reviendra. Vous avez mis 10 ans pour vous décider à écrire sur lui ?
Oui.
Pourquoi autant de temps ?
Parce que j'ai pas pu le faire. Parce que l'émotion après sa mort était trop forte pour laisser passer les souvenirs. Mmh. C'est un drôle de sentiment, ça. Hein. Une émotion qui bloque tout.
Ouais.
Cet été, le 12 juillet, à 5h30 du matin, sans blague, je me rappelle très bien, tout d'un coup, le livre est venu dans la forme que vous lui connaissez. Là.
Le déclic, voilà. On va raconter cette histoire très émouvante avec vous, Daniel Pennac. Le 17 avril sera une date anniversaire importante dans les Antilles et plus largement dans le monde francophone. Il y a 10 ans, le poète Aimé Césaire disparaissait. La poétesse franco-libanaise Vénus Corrigata et l'écrivain martiniquais Prix Goncourt Patrick Chamoiseau parlent de Césaire. Et puis nous rendrons hommage à Jacques Higelin, autre poète fidèle de ce programme, qui nous a quittés le week-end dernier.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Et 4 libraires nous accompagnent bien sûr pour cette émission. Bonjour Jérémy Lagniel.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez le Canada, Jérémy, libraire à la Rosemère, dans la librairie Carcajou. Pour la France, cette semaine, c'est Mathieu Colombe de la librairie Goulard, à Aix-en-Provence, dans le sud de la France, qui est avec nous. Bonjour Mathieu.
Bonjour Emmanuel.
C'est mon accent qui revient à chaque fois, je sais pas.
C'est fou.
Ouais, c'est fou. À Bruxelles, en Belgique, c'est Déborah Damblon. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire dans la librairie.
La licorne.
C'est ça, vous suivez, et c'est à Bruxelles. Bonjour Laura Sanchez.
Bonjour Emmanuel, bonjour
vous
à tous.
Vous êtes à Genève, dans la librairie du Boulevard. Vous interviendrez, bien sûr, tout au long de cette émission. On commence, vous le savez, comme chaque semaine d'ailleurs, par une histoire. Nous avons retrouvé dans les archives de la librairie francophone une sacrée histoire racontée par Jacques Higelin. Écoutez.
Et vous racontez dans le livre cette rencontre entre Brigitte Fontaine et Rufus. Et
non, on avait commencé à écrire avec Rufus un spectacle sur la peur. Et je suis tombé par hasard sur un spectacle près de la Seine, ou de la Seine, le fleuve, où Brigitte était en train de chanter. Elle avait 25 ans, je parle avec un chapeau noir, des bas noirs, les ongles noirs, les lèvres noires. Très magnifique. Mmh. Quoi. Et on s'est retrouvés au matin, parce que les boîtes tenaient encore au matin à Paris. Et quand on est sortis, je lui ai parlé de ce spectacle. Je lui ai dit, est-ce que ça t'intéresserait de venir jouer avec nous ? On sera 3, on parlera de la peur. Elle dit, la peur, alors moi, je suis passionné par ça. Elle est tout phobe, comme dit ma fille, Brigitte Fontaine.
Elle est tout phobe.
Elle n'est pas phobe pour un truc, elle est phobe pour tout. Traverser la rue, prendre l'avion, prendre l'ascenseur, parler à quelqu'un, tout ça, complètement. Et là, elle me dit, mais il ressemble à quoi, ouais, ce Rufus ? Et le jour allait se lever, toutes les lumières de la près de Notre-Dame s'éteignent, et donc dans la lumière du jour arrive Rufus sur un vélo Solex, très droit, comme ça, flambant dans la lumière du jour qui se lève, quoi. Et il passe, et je dis, cloué, je dis, mais c'est lui. Et lui, il entend rien parce que les vélos Solex à l'époque, ouais, ça faisait beaucoup
du
de
bruit.
Et il continue et je hurle son nom et il s'est pas retourné, quoi. Et c'était une apparition, quoi. C'était... La vie est géniale.
Histoire de Jacques Higelin. On retrouvera Jacques avec des extraits d'entretiens très émouvants. Vous verrez, ce sera dans la deuxième partie de la librairie francophone tout à l'heure. Et donc Daniel Pénac est avec nous cette semaine pour Mon frère, paru aux éditions Gallimard. C'est un livre très particulier, Daniel, qui alterne des extraits de Bartleby, le scribe, nouvelle de Melville, que vous avez adapté au théâtre, et des souvenirs tendres de votre vie avec votre frère. Il avait quelque chose en lui de Bartleby, votre frère, comme dit d'ailleurs dans un de ses livres, Philippe Delerme, c'est un titre d'un de ses livres.
Oui, 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 il était très volontiers en retrait. Il y avait des tas de désirs auxquels il ne souscrivait pas. Il était comme Bartleby. Il préférait pas. Sur quantité de choses. Il faut peut-être rappeler d'ailleurs très vite qui était Bartleby pour que ceux qui ne le connaissent pas y comprennent quelque chose. Donc Bartleby, c'était dans les années 1850 et dans une nouvelle de Melville, un scribe qui travaille chez un notaire et qui donc, c'était les, tout bonnement les ancêtres de nos photocopieuses. Et ce scribe-là, dans cette étude où il y a deux autres scribes, refuse de collationner ses textes et petit à petit refuse de faire quoi que ce soit en ne prononçant qu'une seule phrase, c'est « I would prefer not to ».
Je préférerais pas.
Préférerais pas. Et le notaire n'arrive pas à comprendre les raisons de ce retrait. Et Bartleby ne donnera aucune explication. Voilà.
Il s'arrête de jouer finalement avec les hommes. Il arrête de répondre favorablement aux sollicitations.
Voilà.
Il est en suspens comme
Et l'ensemble, la nouvelle, crée un effet, l'ensemble crée un effet absolument extraordinaire.
Alors, votre frère est un peu comme ça, il est un peu à l'écart du monde. C'est ce que je disais tout à l'heure, il se met un peu en retrait aussi.
Il n'était pas un grand donneur d'explications sur ses états d'âme, non. Il était plutôt discret dans le genre. Mais par ailleurs, contrairement à Bartleby, il était très soucieux des autres. Il était extrêmement gentil, aimable avec tous ceux qui dépendaient de son affection, sa famille, ses enfants, etc.
Alors vous écrivez, Daniel Pénac, dans ce livre « Mon frère », des passages très émouvants. Il y a celui-ci qui va nous mettre tout de suite dans l'ambiance. « Dans les premières semaines qui suivirent la mort de mon frère, j'ai perdu l'usage de mon corps. Je me suis abandonné. J'ai manqué me faire écraser plusieurs fois dans Paris. Je me suis fait casser la gueule dans le métro. Je suis tombé d'une falaise. J'ai fait un tête-à-queue qui a placé le museau de ma voiture au-dessus d'un précipice. Et je n'ai pas eu peur, ni dans l'instant, ni en y repensant. Histoire de me reprendre en main, je me suis dit que j'allais écrire sur lui, sur nous. Ma mémoire s'y refusa, comme s'il avait emporté nos souvenirs avec lui. »
Oui.
Ils ont mis 10 ans à revenir, ces souvenirs.
L'émotion était trop forte, oui. Je m'étais abandonné, en fait, et quelque chose. Mon corps était en effet à côté de moi. Ça durait longtemps, ça durait plusieurs mois.
Et vous dites que vous ne vous êtes jamais disputé avec votre frère.
Jamais.
Jamais.
Oui,
mais comment
oui.
C'est possible ça,
eh ben,
Daniel ?
C'est une bizarrerie de notre fraternité. Nous étions les anti-Caïn et Abel. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune envie de l'un contre l'autre. On était, je ne sais pas, c'est une réelle amitié, une symbiose comme ça. Très peu de temps avant sa mort, un mois avant sa mort, on promenait les chiens tous les deux dans la garrigue derrière. Et justement, j'ai dit, mais dis donc, est-ce que tu as le souvenir d'une engueulade entre nous ? Une seule. On avait des tas de choses qui nous opposaient, on votait pas dans le même camp, il y avait des tas de choses qui m'intéressaient, qui ne l'intéressaient pas. Et on n'a retrouvé aucun souvenir d'engueulade, pas la moindre dispute, même bénigne. Nous avons toujours beaucoup ri ensemble.
Mais beaucoup de blagues.
Beaucoup de blagues,
c'est vrai. Des jeux de mots, jeux parmi les situations un petit peu improbables aussi.
Et puis, il avait une forme d'humour, il faisait une minuscule blague. Et ça m'occupait pendant des mois. Ouais. Exemple, on est chez une tante, on boit à l'apéro le soir, et à un moment donné, bon, on devait aller dîner chez des amis. Je dis, bon, allez, c'est pas tout ça, mais faut qu'on y aille, on va manger chez les machins. Et ma tante dit, mais non, voyons, vous allez dîner chez les machins. Et mon frère dit, oui, mais bon, tu connais Daniel. À tous les coups, il en profitera pour manger quelque chose.
Ça, vous racontez dans le livre, ce passage.
Ça me durait la vie entière, je me souviens de ça.
Il est là près de vous toute votre vie, vous ne vous voyez pas très souvent, mais vous êtes en contact permanent. Il fait partie de vous, il fait partie de votre vie. Quand on perd un frère aussi proche, comment on vit, comment on surmonte, Daniel Pénac ?
Ben, dans mon cas, on ne surmonte pas.
On ne surmonte pas ?
Il y a des gens qui peuvent, mais... On surmonte évidemment à la longue, ça se cicatrise, c'est comme tout. Mais les premières semaines et les premiers mois ont été... c'était comme si j'étais devenu cinglé, quoi. Il me manquait la moitié de moi-même, une partie de, très importante de moi. Et surtout, comment dire, la partie en qui j'avais confiance. C'est une protection en même temps. J'avais perdu tout d'un coup. Tout d'un coup, je me trouve quoi, perdu, quoi. Mais parce que, il faut dire qu'on a, je suis né 5 ans après lui et je me suis retrouvé tout de suite dans sa chambre. Et ensuite, nous avons vécu ensemble de 5 à, de 0 à 11 ans, ce qui me concerne, pendant 11 années dans la même chambre et dans cette vie commune, comme ça, il m'a absolument tout appris. Il m'a appris à parler, il m'a appris, je sais pas quoi, à jouer, il m'a appris ensuite à lire les livres qu'il aimait, donc à écrire, puisque moi, si j'écris, c'est parce que j'ai lu. Et il a surtout tout dédramatisé tout le temps. J'étais, comme vous le savez, un cancre effroyable, très malheureux de l'être.
Oui, parce que vous l'avez dit plus souvent.
Mais oui, mais je l'ai écrit.
Oui, oui, c'est vrai.
Très malheureux de l'être.
Un jour, vous rentrez de l'école, d'ailleurs, vous dites « je suis un con, je suis un con, je suis un con, je suis un con ». Vous martelez ça sur votre lit en pleurs.
Oui, oui.
Et votre frère vous dit...
Il était en train de lire, il lève la tête comme ça, il dit « mais non, t'étais con, je le saurais
». On va laisser la place à nos libraires, Daniel Pénac. On va raconter d'autres anecdotes autour de votre frère disparu. Les libraires, donc, 3 ont lu votre livre, Canada, France ou Suisse, on commence par qui?
Qui vous voulez, Amstram Graham,
Piqué, Jérémy Laniel, au voilà. Canada.
Eh bien, ça m'a plu, à ma grande surprise, parce que Pénac, ici, n'écrit pas pour s'apitoyer, bien qu'on sent qu'il le fait par nécessité, c'est là que ça fonctionne. La plus grande qualité, à mon avis, de ce livre, c'est sa concision. Il ne s'épanne pas, il honore avec noblesse, retenue, pudeur, et ça en fait un livre concis, efficace, qui est très bien.
Bien. Mathieu Colomb pour la France, êtes-vous d'accord?
Plutôt oui, parce que les choses soient claires, on ne peut finir que le cœur percé d'une lance ce roman. Je m'explique, parce que même si l'écriture reste enjouée, même si on y rit, on pénètre néanmoins dans l'intimité de Pénac et surtout on y découvre sa part d'ombre. Et même s'il lui a fallu prendre des chemins détournés pour se livrer, même si on parle beaucoup de Bartleby effectivement, la dernière page lue, on se surprend à partager ce grand vide. Certainement le roman le plus touchant du début d'année d'ailleurs.
Ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai. Laura Sanchez pour la Suisse.
Bah oui, moi aussi j'ai été touchée par cette déclaration d'amour à un frère dont on ne cerne pourtant pas très bien les vrais contours. Hein. Jusqu'au bout, la construction du livre est fine. Moi j'ai mis un bon moment à comprendre où vous m'emmeniez. Et puis moi j'ai beaucoup aimé ce parallèle avec le personnage de Bartleby. Personnage hautement énigmatique lui aussi. Et moi ça m'avait beaucoup déconcerté quand je l'avais lu à l'époque et je l'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir.
Oui, c'est vrai que c'est bizarre, Daniel Pénac, cette histoire de Bartleby, parce que vous l'avez montée, hein, cette pièce au théâtre, après la mort de votre frère, et on a comme ça des extraits de la pièce de théâtre, en alternance avec votre récit autour de votre frère.
Oui, 16 mois après.
Ouais.
16 mois après m'est venue l'envie de monter le Bartleby de Melville au théâtre, après un épisode très bref sur une autoroute, l'autoroute du Sud, où j'étais doublé par une bagnole à toute allure, une Ferrari... Bêtise de ce genre,
bêtise.
Toute pompe comme ça, avec un hurlement. Et je ne pensais pas à Bernard à ce moment-là. Et voilà que je me dis, tiens, je suis doublé par l'exact contraire de Bernard.
L'antithèse.
L'antithèse absolue. Et immédiatement, venue l'envie, concomitante, comme ça, sans raison, de relire Bartleby. C'était lui qui m'avait fait lire Bartleby quand j'étais adolescent. Et de le monter au théâtre. Donc il y avait une sorte de cousinage implicite qui m'est apparu plus clair en travaillant le texte de Melville et en le jouant une centaine de fois. Petit à petit, ça se clarifiait de plus en plus, le cousinage entre les deux.
Mais on se dit vraiment que vous avez eu le frère rêvé. Vous êtes tellement proche de lui que quand vous montez sur scène au théâtre, vous faites comme s'il était dans la salle. Vous n'auriez pas pu faire ce métier public sans son soutien, sans le regard de ce frère?
Mais c'est-à-dire qu'il était tellement content quand je jouais. On est des timides, c'est une famille de taiseux, de timides, de silencieux. Et il était émerveillé, disant « ce que t'es gonflé quand même, t'as pas peur, c'est vachement bien ». Donc c'est des petits compliments comme ça. Et il était dans la salle, il y était vraiment avec un vrai plaisir, un vrai bonheur de partage. Quoi. Et c'est le seul de la famille. C'est pas que les autres s'en foutent, mais les autres sont... Bon, ils ont autre chose à faire. Personne de ma famille ne s'est déplacé pour me voir jouer.
Ah bon?
Non, non.
Sauf lui. Ah ouais.
Et ça m'a toujours... y compris quand les livres sortaient, d'ailleurs. La vraie lecture, c'était la sienne.
Ouais. On a toujours un premier public.
Oui, c'était lui.
Il joue avec les mots, alors il vous apprend ça, à jouer avec les mots, Daniel Pénac. Dès l'enfance, il vous incite à formuler vos demandes. Quand vous vouliez votre goûter, il fallait y mettre les formes. Alors vous essayez comme ça, je veux mon goûter, Bernard. Et non, ça marchait pas du tout comme ça.
C'était plus brutal que ça. Il devait me faire mon goûter à 5h. C'était sa mission, c'était son job.
Et il vous oblige à formuler.
Et on jouait, non, c'était un jeu. C'est un jeu, et je disais toujours, l'heure arrivée, je disais, Bernard, goûter. Oui. Je disais, moi, tu déconnes, je peux pas faire sans goûter un garçon qui le demande sur ce temps. Je disais, allez, quoi, Bernard, goûter, s'il te plaît. Non, bon, c'est un peu mieux, mais c'est quand même très loin d'être. Allez, s'il te plaît, Bernard, fais-moi mon goûter. Non, on est très loin du but. Et puis, petit à petit, et tous les jours, c'était de plus en plus long.
Oh, mon frère adoré.
Et à la fin, c'était
Peux-tu me préparer ?
Frère adoré, consentirais-tu, du haut de ton immense bonté à bien vouloir, poser ton regard sur le misérable vermisseau affamé qui se prosterne à tes augustes pieds, etc. Et tous les jours, on en rajoutait. Et ça durait, mais ça était donc de 5 à 7 ou 8 ans. Comme ça, mais à la fin, ça durait, ça pouvait durer 20 minutes.
On va terminer avec une autre histoire. Dans votre village natal du sud de la France, où vous allez l'été, la Colle-sur-Loup, j'imagine, c'est ça ?
Oui, hein, c'est ça.
Mes souvenirs sont là. Il y a un touriste en voiture qui est furieux.
Oui.
Et il sort de sa voiture énervé parce que vous dites, mais il faut se garer plus loin.
Non, c'est pas ça. Le gars avait laissé sa bagnole au milieu de la rue.
En plein milieu de la rue. Voilà. Donc ça bloquait tout le monde.
Alors je vais chez Albertine, la boulangère. Albertine, tu saurais pas à qui appartient cette Mercedes là ? Et Albertine, c'était le monsieur. Et le monsieur, c'était un énorme mec, à poil. Et c'était
poil.
Oui, en maillot de bain.
Ah oui.
Début de l'été, les épaules, la nuque cramoisie, comme ça. Alors, je lui dis très timidement, moi, j'avais 15 ans, je lui dis pardon, monsieur, il y a un parking juste à côté. Et le gars, contre toute attente, explose de fureur. De, oui, vous autres Français, vous ne savez pas nous accueillir. Vous êtes... Ce qui est d'ailleurs vrai. Hein, par ailleurs, on est assez mauvais accueillis.
Ça dépend où.
En général. Et le type en se met à nous engueuler comme du poisson pourri.
Oui.
Et il ajoute cette phrase incroyable, vous êtes pourtant bien content d'avoir mon argent pendant les vacances. Et là, une petite voix retentit, c'était mon frère qui avait passé sa tête à travers le rideau de perles comme ça du magasin, qui dit, oui c'est vrai monsieur, votre argent nous passionne. Alors soyez gentils, l'année prochaine, restez chez vous et envoyez-nous un chèque.
Oui, c'est
le
ça.
Mec. Et alors là, je me suis dit, on est mort. Ce gars va nous massacrer.
C'est génial. C'est une super histoire. Vénus Corrigata vous regarde avec attention. Ça vous a touché, hein, cette histoire.
C'est très sympa. Envoyez-nous votre chèque et ne venez pas. C'est très bien.
L'histoire d'un frère, ça vous touche.
Ah,
vous qui avez perdu le vôtre.
C'est magnifique.
Aussi.
Cet amour entre les deux frères qui ne se sont jamais engueulés, qui vivaient à un rythme fusionnel.
Ouais. Mon frère, donc, est paru aux éditions Gallimard. Merci Daniel Pénac. Vous allez rester avec nous. Nous allons rendre hommage à Jacques Higelin, puis à Aimé Césaire. Et on commence cet hommage en musique avec l'un des derniers titres de Jacques. La joie de vivre, sortie en 2013, est une chanson à la fois joyeuse et émouvante. Je vous laisse écouter avec vos souvenirs de cet artiste solaire. Merci à vous d'écouter la librairie francophone à travers le monde.
Je serais bien parti faire le tour du monde avec toi, dévorer les continents, balayer les frontières, parcourir les états de grâce de la planète entière, découvrir les mille façons de se jeter dans les bras de la joie de vivre. Vivre, libre avec toi. On est tous des vers de terre, amoureux d'une star, des bâtards et des mutants qui croient au Père Noël et qui chantent et dansent sur le cratère d'un volcan. Cracher ces temps de lave et de soleil et de joie de vivre. Libre sur le chemin qui vibre, ivre sous tes pas, te mène sur ta voie. Tant que je sentirai vibrer la terre sous mes talons, respirer le vent du large au fond de mes poumons, s'élancer dans l'univers mes pensées qui décollent, et que j'aurais envie de rêver en musique et paroles. Ma joie de vivre libre sur le chemin qui vibre, ivre sous mes pas, sous mes pas. La joie de vivre m'inspire, la foi qui vibre libre et se bat. Je serais bien parti faire le tour du monde avec toi.
Hommage à Jacques Higelin avec La joie de vivre sur ICI Radio-Canada Première, RTBF la première de la RTS et sur France Inter.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS la première.
RTBF la première.
ICI Radio-Canada Première.
France Inter.
Mon âme d'enfant est bien dans certains, à certains moments, dans certains endroits. Par exemple, quand je suis dans des librairies, moi je parle pas.
Vous lisez des livres?
Ah oui, ouais. Je regarde et je peux passer des heures dans une librairie, même jusqu'à me faire oublier par ceux qui m'accompagnaient au départ, parce que ça me passionne, quoi.
Est-ce qu'on peut dire d'ailleurs que ce sont les livres qui ont permis la création de certaines chansons, que ce côté rigoureux qu'on trouve dans vos textes, poétique également, très élaboré, ça vient de là justement, de votre passion des livres?
Peut-être, aussi, également. Mais c'est aussi l'amour de la musique. Et de toute façon, un livre qui est bien écrit, c'est un livre qui chante. Moi, je n'ai jamais vu un bon livre avec un style médiocre. Les grands bouquins que j'ai lus, les phrases, elles chantent, quoi. Le style, il est enlevé, quoi. Il s'arrache, quoi. Parce que c'est impossible d'écrire un truc plat. De toute façon, c'est mauvais, quoi. Quand c'est plat, c'est mauvais, tu jettes.
Et vous ne pensez pas qu'il faut aller quand même jusqu'au bout pour être sûr que parfois...
Je me suis déjà forcé, mais une ou deux ou trois fois après, j'ai jeté le bouquin en me disant, putain, quelle merde. Tu vois.
Est-ce que vous êtes autant émerveillé qu'un gamin?
Mais on est tous des enfants, vous aussi, là.
Ouais.
Des adultes étant des enfants avec un carnet de chèques, c'est tout le différent.
Marche à l'envers, échec et mal. Les fous dansent de travers. La Camarde en tête de la parade. Mascarade, pétarade, le fou rire est de rigueur.
Jacques Higelin, dans la librairie francophone en 2008, il y a 10 ans, nous étions dans une librairie à Paris en public et il avait beaucoup joué avec nous ce jour-là car Higelin était un rêveur mais aussi un joueur, artiste des mots et des sons, funambule à 16 heures, insaisissable aussi, il pouvait basculer, bousculer, troubler, choquer et puis d'un coup comme ça aller dans la bienveillance et la gentillesse absolue. C'était ça Jacques Higelin, un homme à part, imprévisible qu'il fallait laisser s'exprimer, quitte à perdre pied, quitte à ne plus savoir où aller. Les voyages pour les rencontres, c'est ce qu'il aimait profondément, découvrir les cultures du monde et aller voir les autres. Engranger des sonorités et des influences, Higelin piochait des éclats de notre monde pour en faire des poèmes, puis des chansons. Jacques était un créole, métissé par ses échanges et ses escales. Il nous faisait voyager dans des lieux inventés, dans des univers décalés. Jacques Higelin a laissé en nous des souvenirs et des émotions. Le funambule n'est pas si loin de nous, entre ciel et terre. Regardez là-haut, il nous montre la beauté du monde. Hymne à l'amour, hymne à la vie, Jacques nous incite à aimer, encore et toujours.
Hey, t'as vu la beauté créole, la coulée du regard.
Des despotes de comptoir, caméscope en sautoir, qui du matin au soir ne font que
lécher du blanc, broyer du noir, chacun dans sa tour d'ivoire. Encerclés par les éléphants, les moustiques et les cafards.
Vous étiez un enfant solitaire déjà, vous le racontez, c'est votre frère Paul qui vous protégeait. Et puis, vous avez connu la guerre, jeune enfant. Votre premier souvenir, c'est un bombardement.
Ouais, ouais, ouais.
C'est le premier son que vous avez...
C'est le premier sifflement que retenu. J'ai entendu tomber du ciel,
ouais, ouais.
Mais à travers les nuages, à travers les orages, quoi. C'est pour ça qu'en ce moment, je suis très... dérangé par cet appel à la guerre. J'entends des appels à la guerre de partout, quoi. Et je suis pas d'accord.
Ouais.
Parce que je me rappelle très bien de la guerre et des retombées et des moments où ça dégomme complètement, quoi. Où ça déconne complètement, quoi. Et c'est vraiment dangereux quand on est parti sur la voie de la violence. Pour arrêter quoi que ce soit, c'est horrible.
Et puis ça n'en finit pas.
Et ça n'en finit pas.
C'est ça le problème.
Quoi.
Comment vous définissez alors ?
Un poète. Un amoureux de la vie.
Et un poète, ce n'est pas un combattant ?
C'est pas ça. C'est quelqu'un qui vous réconcilie avec la vie et qui vous réconcilie avec l'amour. Voilà, c'est tout. L'amour est... C'est belge. Moi, je suis belge.
Mais, votre maman était belge.
Mais pour l'instant, c'est pas. Oui, c'est pas.
Mais vous aimez raconter des histoires. Alors, c'est très drôle parce que, avec Valérie Lou, vous racontez cela, que vous êtes dans la cour d'école et vous êtes avec les plus petits. Vous leur racontez des histoires. Au lieu d'aller taper dans un ballon, vous leur racontez des histoires. Et la directrice qui vous surveille de sa fenêtre, elle va bientôt partir à la retraite. Alors, elle convoque vos parents et elle leur dit surtout, Jacques, il faut le laisser devenir artiste.
Ouais.
C'est ça sa vocation.
Ouais. Ben oui, c'était une femme qui aimait les artistes, la directrice. Et puis après, elle est partie très vite parce qu'elle était en comment on appelle ça en...
Elle allait aller à la retraite.
À la retraite, oui, la retraite. J'arrive pas à coller ce mot-là sur cette femme qui était tout sauf prendre la retraite.
Madeleine Cavalier.
Madeleine Cavalier. Ouais.
Ouais. Ouais, alors ça part de là, et c'est vrai que les hasards de la vie, finalement, ils vous ont mené à certains endroits, Jacques Higelin. Vous n'y croyez pas d'ailleurs au hasard de la vie. Vous écrivez « Les choses arrivent à qui est disponible pour les vivre, les entendre ou les voir. C'est formidable d'être à la disposition de son destin. » Et effectivement, votre parcours est semé de clés, de rencontres déterminantes. Vous avez cette capacité comme ça à saisir l'opportunité, un peu malgré vous d'ailleurs. Vous êtes conscient de ça? Parce que dans le livre, on a vraiment l'impression que ça arrive et que vous
mais
subissez le positif.
Parce que je laisse arriver.
Oui, oui, oui.
Parce que je suis passionné par ces rencontres. Je trouve que il y a rien qui est plus formidable que les rencontres dans l'histoire humaine.
Ouais. C'est ça qui vous a fait tenir toute votre vie, Jacques Higelin. C'est ça qui a fait que vous vous êtes toujours accroché, la rencontre avec l'autre.
Oui. Bah ouais.
Ouais.
Mais oui, sauf au football où j'étais pas doué.
Ouais, vous étiez nul au foot.
Ouais, ouais. Nul au foot. Mais j'avais envie de participer au truc.
Pour être dans le groupe.
Oui, pour être dans le groupe.
Toujours la rencontre, du coup.
Oui, les rencontres. Ouais. Ouais.
Vous aimez la rencontre à un point, Jacques Higelin, que vous êtes capable de vivre une déception amoureuse et de l'assumer. Hein. Un jour, vous rencontrez Irène, c'est un grand amour de votre vie. Vous êtes amoureux fou, vous recevez une lettre de rupture et vous dites « J'ai été profondément heureux. Cela vaut bien la peine que j'éprouve aujourd'hui. »
Ben oui.
C'est beau, ça.
Ben oui.
Ouais.
Parce que c'est vrai. C'est vrai. Il faut mériter quelque chose de la vie. C'est un cadeau que quelqu'un tombe amoureuse de vous, ou amoureux de vous, d'ailleurs.
Et donc, il faut supporter la peine après.
Ben, il faut...
C'est la règle.
Ouais, mais on ne s'est jamais quitté avec Irène, en fait.
on est toujours... Et puis les gens que j'ai vraiment profondément aimés, je les ai pas quittés, quoi.
Ouais, ouais.
Sauf si, à un moment donné, ma mère qui mourait et mon frère qui est mort.
Ouais.
Et ça, c'était... j'ai toujours pas digéré, mais...
Mais ils sont là avec vous quand même, vous le dites.
Ils sont là, vraiment, ouais. vraiment.
Un jour, au cours d'un concert, vous captez le regard d'un enfant, Jacques Higelin, une petite fille qui vous regarde intensément, que l'on vous présente ensuite dans les loges, et qui est complètement muette.
Oui, et elle me regarde, vraiment. Et puis, elle était avec trois femmes, sa tante, sa grand-mère et sa mère. Mmh. Je lui ai fait une déclaration d'amour à cette jeune fille, à cet enfant, quoi, à cette qui avait 9 ans.
Ouais.
À un moment donné, ça s'est arrêté le concert parce que je lui ai parlé à elle. Et je lui ai dit, tu verras, l'amour, ça peut être formidable. Moi, par exemple, je suis amoureux de toi, de ton regard et de ta façon d'être. Et puis, elles m'ont écrit, toutes les trois lettres. Et elles m'ont dit, voilà, vous ne savez pas ce que vous faites des fois, mais ce serait important de vous le dire, parce qu'on a emmené cette petite fille avec nous. Et elle ne parlait plus depuis un an. Et
elle s'était faite violer, en fait.
Elle s'était faite violer, oui.
Elle était traumatisée.
Oui. Et elle dit, ce matin, elle s'est réveillée et elle parlait. Mmh. Et elle chantait. Et c'était vraiment... Je me dis, putain, si c'est ça que ça sert un artiste, c'est vraiment formidable, quoi. Parce que c'est miraculeux, quoi.
Ouais.
Et souvent, je dis ça. Je dis aux gens, c'est miraculeux d'être un artiste.
Tombé du ciel, à travers les nuages, quel représage un aiguilleur du ciel tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille.
Jacques Higelin, avec ce livre « Je vis pas ma vie, je la rêve » que vous pouvez retrouver en livre de poche désormais, dans une collection donc poche. Daniel Pénac, un souvenir avec Jacques Higelin.
Alors on ne se connaissait pas, mais on s'est rencontrés une fois. C'était dans un train et nous nous sommes mutuellement reconnus.
Ouais.
Alors il m'a reconnu, il a vu que je le reconnaissais. Il s'est levé et il est venu m'embrasser. Et bon, j'ai embrassé et puis voilà. Et on est arrivé à Paris et nous ne nous sommes jamais revus, mais quelle clarté dans sa voix, hein, quelle juvénilité, quelle liberté, mais jusqu'au bout, hein, parce que là, il n'est plus tout jeune. Et dans les textes, la liberté absolue, il y avait quelque chose d'un traîné, surenchanté hein, chez lui, qui est incroyable, c'est magnifique. Magnifique.
Ouais. Et puis le dernier entretien que vous avez entendu, c'est l'un de ces derniers, puisque c'était il y a peu de temps dans cette émission.
Et
c'est le dernier dans la librairie francophone.
Il était encore.
Et encore, oui, tout à fait.
Et le don, le côté...
L'éblouissement aussi.
Ah, ouais. Incroyable.
Bon, on pourrait en parler des heures. On va rendre hommage aussi à Aimé Césaire. Vénus Corrigata est tout émue. Bonjour Vénus, je vous ai même pas dit bonjour tout à l'heure.
Bonjour.
On a parlé de Daniel, mais bon, ça va bien Vénus.
Très bien.
Bon, on va écouter nos libraires avec la chronique des libraires. Vous savez qu'il y a une chronique. On y va? Allons-y. La chronique des libraires, tous ensemble pour les coups de gueule et les coups de cœur. Laura Sanchez, pour la Suisse, un coup de gueule pour vous.
Oui, alors, un coup de gueule, je vais vous dire. Sur le papier, c'est super. Un trio de Lajar, Aude Seigne, Bruno Pellegrino, Daniel Vuata. Un feuilleton pour renouer avec les feuilletons d'avant et les séries télé d'aujourd'hui. Des illustrations de Frédéric Pajac. Une super éruption volcanique au centre de l'Europe. Mais non, moi je vous dis pour le moment, ça ne prend pas.
Mmh.
Alors allez, on va quand même garder le cap avec eux, hein, tellement c'est prometteur. Ça s'appelle Standby.
Ouais.
C'est la deuxième partie de la saison 1 qui vient de paraître chez Zoé.
C'est un peu particulier, ça ne plaît pas à tout le monde, vous l'avez compris. C'est chez Zoé, effectivement. Jérémy Laniel pour le Canada, un vrai coup de cœur aujourd'hui.
Absolument, le dernier chalet d'Yvon Rivard publié chez Leméac. Rares sont les livres, Emmanuel, qui m'enthousiasment comme celui-ci. Yvon Rivard offre un livre comme on offre un refuge. À mi-chemin entre réflexion sur l'écriture, sur le travail de l'écrivain, il questionne comment vivre avec le paysage, comment côtoyer la beauté, comment continuer d'écrire alors qu'on sait pertinemment qu'on n'écrira jamais les livres que l'on aime. Pas très loin des carnets de Peter Handke, le dernier chalet est un de ces livres qu'on se permet d'habiter et auquel on retournera nécessairement.
Yvon Rivard, le dernier chalet aux éditions Leméac. Merci Jérémy. En France, Mathieu Colombe, coup de gueule ou coup de cœur ?
Coup de gueule.
Allez-y.
Allons-y. Donc on va parler du Scarabée bleu d'Emmanuel Jappert. Alors c'est un livre qui doit faire du bien. C'est un roman, donc c'est une quête initiatique avec une petite fille. Et il n'y a rien qui marche. Tous les poncifs du genre sont dedans. Alors par contre, le style d'écriture est vraiment à un cheveu de marcher. Un cheveu, mais il marche pas. C'est très très dommage. Je pense qu'il y a eu un manque de communication en fait entre l'auteur et l'éditeur. Il y a un truc qui aurait pas dû se passer. Vraiment.
Il faut pas lire ce livre.
Faut se faire son avis.
Mais la couverture est magnifique en tout cas.
La couverture est très très belle.
Ça ne veut rien dire. Chose, oui. Emmanuel Jappert, c'est une femme. Hein, le Scarabée bleu aux éditions Erol. Merci, si je peux dire, Mathieu. Déborah Damblon, on termine avec vous en Belgique et avec un coup de cœur.
Voilà, Emmanuel. Est-ce que vous avez déjà dû emmener un enfant à l'hôpital?
Oui.
Oui. Eh bien, moi, j'ai un super formidable petit bouquin qui répond à toutes les questions, qui console toutes les peurs, qui rassure les enfants, les parents, qui répond même aux questions qu'on n'a pas pensé à se poser. Et puis, je vous jure, moi, si je l'avais eu quand j'étais petite, je suis sûre que ça aurait déclenché des vocations et que je ne serais pas avec vous aujourd'hui.
Bon, l'hôpital expliqué aux enfants, c'est chez Nos Futures Éditions. Merci, Déborah. À suivre l'hommage à Aimé Césaire. Il y a 10 ans tout juste, il nous quittait et laissait une œuvre de référence pour la francophonie. Avant cela, voici un croisement musical culturel avec le groupe Delgré. le trio Del Grey. Monsieur Président, dans la librairie francophone.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Je suis poète parce que je ne suis que par le poème. C'est par le mot que j'accède à l'être. En bref, ce que je suis fondamentalement, c'est un homme de parole, autrement dit un poète.
Vénus Corrigata est avec nous pour cette commémoration du 10e anniversaire de la mort d'Aimé Césaire. Césaire, figure essentielle de la francophonie, agite encore les consciences. Cité par tous les poètes du monde, il a créolisé la langue française, lui donnant une saveur nouvelle et parfois même un sens renouvelé. Vénus, pour vous, la poétesse franco-libanaise, la poésie de Césaire vous captive depuis très longtemps. Racontez-nous qui est Aimé Césaire.
C'est un poète, c'est un nègre. Je dis nègre parce qu'il a créé le mot négritude avec Senghor. Mmh. C'est un marxiste, mais auquel on reproche de n'avoir jamais fait un seul jour de prison. C'est un surréaliste. Il est devenu surréaliste après avoir été un grand lyrique, un grand épique. Le retour, les cahiers de retour au pays natal est un monument de lyrisme et de poésie épique. Et brusquement, au contact de Bretons qui rentraient après ces 3 années d'exil pendant la guerre de New York, fait un raccourci par
la Martinique,
les Antilles, par Fort-de-France. Mmh. Oui. Et il est contaminé par ce surréalisme créole. Il a vivifié la langue française, il l'a ensauvagée.
Mais c'est vrai que c'est une écriture très intense, très exigeante. Quand on lit les poèmes de Césaire,
il y a des tempêtes, il y a du sang, il y a des grands sentiments, il y a des tempêtes, il y a des orages. Mais brusquement, il s'est assagi avec la poésie, avec les surréalistes. Ouais. C'est devenu autre chose. Il s'est beaucoup modernisé. Et il est resté très modeste, ayant été député pendant très longtemps. Il venait en France, il a été mis sur un piédestal par les surréalistes, sauf par Aragon, parce qu'il était fâché avec les surréalistes à cette époque, donc il ne s'est pas approché de lui. Il a fait comme s'il ne le voyait pas.
On va écouter aussi Patrick Chamoiseau pour cet hommage, Vénus Corrigata. Patrick Chamoiseau, grand écrivain martiniquais, lui aussi figure incontournable de la littérature francophone, prix Goncourt en 92 pour Texaco. Il se dit fils de Césaire, mais aussi fils de Glissant. Il est très rare à la radio. Il a rendu hommage à Césaire pour la librairie francophone le week-end dernier en France. C'était à Orléans. Le 17 avril 2008, Aimé Césaire disparaissait. On célèbre donc en ce mois d'avril le 10e anniversaire de sa mort déjà. Qu'est-ce qu'il a laissé à travers la francophonie, Aimé Césaire, Patrick Chamoiseau?
Moi, je pense que ce qui est extraordinaire chez Césaire, l'expérience césarienne, c'est qu'il d'abord, il ne faut pas la réduire à la question de la décolonisation et à la question de la négritude. Il faut lire Césaire sous un angle qui est un angle relationnel, c'est-à-dire... Il naît dans une petite île de canne à sucre, dans un contexte colonial, raciste, etc. Une langue lui tombe dessus, c'est la langue française et c'est la langue du maître. Il y a une autre langue à côté de lui qui est la langue créole, mais il ne la reconnaît pas, elle ne fait pas partie de ses urgences et il va s'emparer de la langue française. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans cette langue française, il va réussir à échapper aux absolus linguistiques en cours alors dans les identités. Il va prendre cette langue et il va la faire rayonner sur la réalité décoloniale, la réalité africaine, la réalité un peu composite des Antilles, c'est-à-dire nous devons habiter les langues qui nous sont données. Je suis absolument fasciné par la capacité qu'il avait d'observer la nature, les fleurs, de vivre des instants, de décrire des instants de sa vie. Vraiment une sensibilité personnelle irréductible qui était singulière, qui était vraiment, c'est vraiment une vision poétique sur la Martinique, sur les Antilles, sur le monde, qui est absolument précieuse. Il y a une phrase que je n'avais pas comprise aussi au début. Il disait « La mer a un goût d'ancêtre ». La mer a un goût d'ancêtre, oui, bon, d'accord, la mer a un goût d'ancêtre, etc. Et puis après, quand j'avance un peu dans mes réflexions et que je me rends compte que dans l'Atlantique, des millions d'Africains, il y a eu à peu près entre 12 et 15 millions d'Africains qui ont été traités. Mais chaque fois qu'il y avait un bateau négrier qui traversait, il y en a eu des centaines, il y avait un tiers de la cargaison qui tombait. C'est-à-dire qu'il y a eu 15 millions d'Africains qui sont arrivés aux Amériques, mais il y en a presque autant au fond de l'Atlantique. Et quand il dit la mer a un goût d'ancêtre, c'est comme s'il disait, voilà, l'Atlantique est un vaste cimetière, c'est un lieu de mémoire, la mer a un goût d'ancêtre.
Que faut-il lire d'Aimé Césaire quand on ne connaît pas son œuvre ?
Moi, je pense qu'il y a deux extrêmes. Le moment de la fougue de jeunesse, le cahier neurotropie natale, je commanderais aux îles d'exister, c'est l'exaltation de la jeunesse. Et puis le moment de la vieillesse, où le vieil homme ressasse un peu sa mélancolie, ses échecs, c'est moi la minère. Vous lisez le cahier et tout de suite moi la minère, vous voyez toute la vie d'Aimé Césaire défiler avec ses effondrements et ses triomphes.
Patrick Chamoiseau, dont je vous conseille le roman L'empreinte à Crusoé, qui est paru en livre de poche et qui est une formidable illustration de sa pensée profonde, intense et, comme vous l'avez compris, influencée par ses aînés comme Césaire et Glissant. Daniel Pénac, vous avez accepté de nous lire un poème d'Aimé Césaire sur la musique de l'Antillais Gérard Lavigny. Il se prépare, Daniel, avec son casque et la musique derrière. Écoutez.
Alors, c'est un poème tiré du recueil Cadastre. Soleil et eau. Mon eau n'écoute pas. Mon eau chante comme un secret. Mon eau ne chante pas. Mon eau travaille. Et à travers tout roseau exulte jusqu'au lait du rire. Mon eau est un petit enfant. Mon eau est un sourd. Mon eau est un géant qui te tient sur la poitrine. Un lion. Ô vin. Vaste, immense, par le basilic de ton regard complice et somptueux.
Merci beaucoup Daniel Pénac. Vénus Corrigata, vous venez de publier un nouveau recueil de poèmes aux éditions Mercure de France, Jean de l'eau. Alors on a écouté ce poème de Césaire, Soleil et eau. Là aussi les questions d'eau chez vous. Et comme Césaire, vous portez un regard attentif sur la nature. Elle est là, présente et vivante dans tous les poèmes de ce livre.
Je me suis protégée dans une image de la nature, de mon village, qui est au nord de tous les nords du Liban. À cause de la ville fait peur. Des attentats, tous ces gens qui tuent n'importe qui, n'importe quoi. Mmh. Et on m'a dit, les lettres qui me parviennent, c'est une poésie écologique, pas du tout. C'est une poésie qui ressemble à la vie qu'on menait dans mon village, où les hommes et les arbres vivaient ensemble, où un homme qui mourait laissait sa place à un arbre de son choix.
Et il y a aujourd'hui en opposition, en confrontation même dans vos poèmes, ces hommes qui tuent au nom d'un livre sacré, un livre, dites-vous, qui a mangé tous les livres. Donc vous évoquez évidemment le terrorisme. Qui sont les gens de l'eau, Vénus Corrigata?
C'est les gens de mon village, c'est les gens de tous les villages, c'est les gens du village de Aimé Césaire, ceux qui se retranchent dans la nature et qui vivent au rythme de la nature et des arbres, un monde sans aucune violence. Je ne sais pas dire que j'ai inventé, ça m'est venu, on me dictait quelque chose, on me racontait quelque chose qui me consolait de la violence des villes.
Ouais, c'est ça.
Je ne suis pas une fille des villes.
C'est une consolation, une fille... Voilà. C'est ça. Vous écrivez « Les gens de l'eau ont leur code. Ils parlent la bouche remplie d'abeilles, le caillou blanc sur la langue signe la paix. Oui. » Les abeilles reviennent souvent dans ces poèmes, Vénus. Quel est le symbole? Qu'est-ce qu'elles nous disent, ces abeilles?
C'est le miel, parce qu'elles donnent leur miel. Le miel, c'est la parole, c'est la poésie. La poésie, c'est le miel de la de D'accord. l'écriture. J'aimerais bien lire un poème que j'ai dédié à Bernard Pivot, si c'est possible.
Allez-y, tout est possible ici.
Faute de miroir, les femmes de Jean de l'eau ne savent pas qu'elles sont femmes. L'herbe arrachée de la main gauche les imprègne de sa soumission. Elles tissent des murs autour de leurs hanches quand l'homme part à la chasse. Coupent le fil à son retour avec leurs dents. L'antilope sur l'épaule, ni pain, gibier. Mais une épouse pour tant d'indigence et de désillusion.
Vous évoquez les désillusions, Vénus Corrigata. On va donner la parole à nos libraires, mais juste avant, vous pensez que c'est la pire déception, ça, la désillusion?
C'est pire que la désillusion, il y a la mort, parce que désillusion, on peut très bien la remplacer par une
autre illusion.
Après, Daniel Pénac parlait de la mort de son frère et j'ai pensé que c'était irrémédiable. On peut tout réparer sauf la mort.
Ça, c'est sûr.
J'ai eu deux deuils de deux compagnons de ma vie qui sont morts et je sais ce que c'est. C'est la plus grande des désillusions, la mort, parce qu'elle n'est pas rattrapable, à moins d'écrire ce mort.
Oui, puis parce que la vie...
Daniel Pénac l'a écrit, il lui a donné une vie, il a prolongé sa vie en le racontant.
Et puis parce que la vie nous laisse plein d'illusions. l'illusion de ne pas mourir déjà, quelque part.
Elle n'existe pas.
Non. On va donner la parole à nos libraires pour conclure. Vénus Corrigata, deux ont lu votre recueil de poèmes, Le Canada et la Belgique. On commence par qui ? Vous choisissez ?
Je suis ravie qu'il ait lu, il vient de sortir, il
d'accord.
est encore sorti.
Le Canada ou la Belgique ?
Les deux. Celui d'accord. qui dit du bien de mon recueil.
Mais les deux
celui
vont intervenir.
Celui qui a aimé, celui qui a
bon,
aimé.
Bon allez, on va redonner la parole au début à Jérémy Laniel. Ça ne fonctionne pas cette semaine, personne ne choisit. Je choisis, vous êtes désigné Jérémy.
Oui, Emmanuel, il y a toujours un danger avec la poésie narrative, hein, celui de perdre l'importance des mots. Mais Corrigata sait faire. Le vers est ciselé, peaufiné. Bien qu'il court longuement, jamais il ne s'éternise. Elle laisse les images apparaître, un peu comme notre reflet sur l'étang. C'est un monde qu'elle construit dans l'intensité du lieu et l'éphémérité du temps.
Bien.
Merci.
Déborah Damblon pour la Belgique. Que voulez-vous dire à Vénus Corrigata ?
Ben, je veux vous dire, chère Vénus, que c'est un secret pour personne, mais moi j'aime absolument tout ce que vous écrivez. Il m'est ici, avec vos gens de l'eau, je trouve que vous touchez vraiment, réellement à la perfection. Parce que j'ai lu vos textes lentement, je me les suis murmurés à moi-même, j'ai frissonné et j'ai été fascinée par ce monde de l'eau que vous êtes arrivée à faire vivre. Et je suis sûre, Vénus, je suis sûre que le paradis sent le jasmin et que les anges y lisent vos poèmes.
Ah, quel poète vous êtes, merci.
Bon, Daniel Pénac, les libraires ont été très sympas aujourd'hui. Hein. Ça
ah
vous fait
oui,
sourire.
Oui, non, mais ça fait du bien, vous savez, c'est merveilleux d'entendre ça.
Bon, Vénus, ça va ? Vous allez vous remettre ?
Je suis ravie.
Bon, merci beaucoup d'être venu rendre hommage à Aimé Césaire et parler de ce recueil de poèmes Jean Delos, paru aux éditions Mercure de France. À noter aussi un ouvrage aux éditions Bernard Chauveau, coordonné par Sylvie Andreux, 15 lettres à Aimé Césaire, rassemble des auteurs et artistes qui s'adressent à Aimé Césaire. Et puis le 17 avril, mardi prochain, donc, la Martinique, mais aussi tout le reste de la francophonie célébreront Aimé Césaire pour marquer le 10e anniversaire de sa disparition. Merci beaucoup Vénus, à bientôt. Merci Daniel Pénac.
Merci.
Merci,
merci à vous.
La librairie francophone, Emmanuel Guérade.
Avant de conclure, coup de projecteur sur un artiste francophone, voici le chanteur Flavien Berger avec un extrait de Brutalisme.
Un peu plus de minutes avant jamais. Ralenti, ralenti, on est trop près. Dernier mot sur la plage d'Acapulco. Tous les deux sous le même kimono. Un peu plus de minutes avant l'avion. D'où tu verras les lignes et les rayons. Que dessine mon quad sur le sable. Sécheras tes larmes dans l'air climatisé. Oh. Ultime bain, noie ton chagrin. Je ne suis pas loin, en vrai. Je te rejoins le mois prochain. Je vais t'aimer. L'éternité. Un peu plus de minutes avant l'après. Au matin, j'ai le visage griffé. T'as zoomé dans mes plaies une fois encore. Tu vois mon épiderme, c'est la vallée de la mort.
Flavien Berger, Brutalisme, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter pour communiquer avec vous. Sachez qu'une page internet dédiée à notre grand entretien à Séoul avec Jean-Marie Gustave Leclésio a été créée par le site de France Inter. Vous pouvez écouter ou réécouter la totalité de ce reportage de 45 minutes. À la réalisation, Henri-Marc Mutel avec Florent Layani, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère et Alice Jacquelin en France, Martine Béguin-Felet et Annick Chouin en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Sylvie Julien et Jacqueline Castonguet au Canada. La semaine prochaine, le grand voyage francophone continue. Bonne semaine, bon week-end. Salut.